La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au Festival international du film Jean Rouch, créé par le père du cinéma ethnographique.
Vraiment pour moi, l'avenir n'appartient qu'à deux genres de personnes, les enfants ou les fous. Et je crois que peut-être je suis resté un peu des deux. Tu vois, ici nous sommes sur les bords de la Seine. J'ai fait des ponts. Tu as derrière toi deux types de ponts. Le premier type, c'est l'horreur, celui qui l'a tout près. Symétrique, rationnel. C'est Socrate, c'est Descartes, c'est Kant. Et derrière, tu en as un qui est fou. Fou, absolument fou. Aucune des arches n'est semblable. Et c'est ça, pour moi, un pont. C'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, pour le moment, je suis entre les deux. Mais ce que je voudrais, c'est faire des films comme le pont que tu vois là-bas, qui te pose un problème et qui, malgré tout, sont toujours là.
La voix de Jean Rouch dans La Marche du Monde, ingénieur, puis ethnologue, puis cinéaste pour regarder la vie des autres, les enfants et les fous, pour raconter leur mode de vie, leur rituel et leur cosmogonie. Jean Rouch, caméra au point, inventeur du cinéma direct avec du matériel léger pour filmer et enregistrer. Jean Rouch, père du cinéma ethnographique, père de la Nouvelle Vague, une référence pour Godard. Jean Rouch, tombé amoureux d'un pays, le Niger, où il a décidé d'être enterré. C'était en février 2004. Et pour les Nigériens, Jean Rouch est un monument national. Il est le père du cinéma au Niger. Mais comment regardait-il les autres et quelles sont celles et ceux qui aujourd'hui s'inscrivent dans son héritage, ici et ailleurs dans le monde? Autant d'interrogations à partager avec Laurent Pelé, délégué général du festival. Et dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde, nous écouterons également le témoignage exceptionnel du cinéaste Anand Patwardhan, dont le dernier film The World is Family a été sélectionné cette année au festival Jean Rouch. Bonjour Laurent Pelé.
Bonjour.
Et bienvenue dans La Marche du Monde.
Merci.
C'est chaque année au musée du Quai Branly à Paris. C'est le festival international du film ethnographique inspiré par l'œuvre du cinéaste ethnologue qui incarne rituellement l'esprit Jean Rouch. Mais quel est vraiment l'esprit de ce festival?
Alors au tout début, quand Jean Rouch a créé le festival, on est en 1982, il l'a fait avec Françoise Foucault, qui était son assistante, sa secrétaire, et tous les deux avaient pour idée de rassembler des cinéastes, des ethnologues et des anthropologues. De lier donc d'un côté le 7e art avec la recherche en sciences humaines et sociales. Et puis au fur et à mesure, et même très vite, arrivent les films d'étudiants. Hein, comme disait Jean, les cinéastes en herbe. Et puis, on va s'ouvrir aussi du côté des universités étrangères, ce qui fait que très rapidement, le festival qui avait commencé avec 3 jours de programmation va passer à 5 jours. Et aujourd'hui, on en est à une vingtaine de jours.
Quels sont vos premiers souvenirs personnels du festival, justement ?
Des salles bondées au Musée de l'Homme, hein, où il y avait à peu près 200 places assises et il y avait 300 personnes tout autour. Bref, c'était des séances tumultueuses, des séances avec une chaleur humaine incroyable et tout ça mené par Jean Rouch devant la scène du musée, hein, de cette salle historique et qui aujourd'hui d'ailleurs porte son nom, qui s'appelle l'Auditorium Jean Rouch.
Laurent Pelé, comment faut-il imaginer la façon de travailler de Jean Rouch? Est-ce que pour lui le film c'est un moyen? Ou est-ce que c'est une fin pour l'ethnologue qu'il était?
Alors le film est une fin, oui, et aussi un moyen, parce que la fin, c'est par rapport à la diffusion, c'est autre chose qu'un article, c'est vu par beaucoup plus de monde, et puis un moyen parce que c'est aussi un matériau d'étude, aussi bien du côté cinématographique que du côté ethnologique. Et parfois, Jean, notamment, je l'ai vu avec Germaine Dieterlin, qui était une ethnologue, africaniste, retravailler sur des films d'Ogon 20 à 25 ans après le tournage.
C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des notes, finalement, la caméra devient presque un stylo.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la caméra stylo de Pierre Caste, l'un des membres de la Nouvelle Vague et du cinéma français, et que Jean a tout de suite appliqué, en fin de compte, pas pour son premier terrain, qui était en 1942, mais à partir de 1946, il est, comme je dis toujours, armé d'une caméra.
quand il se balade en Afrique. Alors vous avez vous-même signé un portrait documentaire de Jean Rouch, co-réalisé avec Laurent Védrine et intitulé Jean Rouch, cinéaste aventurier, un film tourné au Niger où nous découvrons la voix du preneur de son de Jean Rouch et ça me réjouit beaucoup. Écoutez Moussa Hamidou.
C'est Jean Rouch qui est le grand-parent de cinéma au Niger. C'est avec lui que ça a commencé. Il a filmé Oumar Ganda et c'est parti comme ça. Le cinéma est né au Niger comme ça. Au début, quand j'ai connu Rouch, moi, pour moi, ce type-là, c'est un faiseur de films. Mais à la longue, quand on est arrivé au Niger et qu'on travaillait, à la longue, j'ai remarqué que Rouch était un grand conteur. Un grand conteur qui veut que tout soit conservé sur des pellicules. Parce que c'est quelqu'un qui voyait de loin. C'est quelqu'un qui voyait l'avenir, on dirait.
Actuellement, je m'attache à un travail qui est peut-être assez ardu, qui est justement l'étude de l'évolution et des transformations de ces traditions africaines à l'intérieur d'un monde qui est en plein bouleversement, d'un monde africain qui est lui-même en plein bouleversement, pour qu'il en reste un témoignage écrit et si possible un témoignage filmé.
Rouch disait toujours, tu sais Moussa, ces choses-là, dans tant d'années, ça n'existera plus. Or, ce que nous faisons, les gens les verront longtemps après.
Jean Rouch est le père du cinéma au Niger, il voyait loin. C'est ce que vous a dit Moussa Hamidou, son preneur de son. Et il ajoute, Rouch faisait des films pour qu'on les voit longtemps après. Pourquoi c'est important de conserver les films de Rouch et de les voir justement longtemps après, Laurent Pellet?
Ben, les films de Jean Rouch, c'est une mémoire. Hein, c'est la mémoire de certaines pratiques religieuses, d'un certain quotidien, et puis aussi de parties d'humour avec ses amis, avec ses copains d'Amouret, Lame et Talou, et quelques autres d'ailleurs. À chaque fois, le son a été réalisé par Moussa Hamidou. Et ces films, même si on va au-delà de Jean Rouch, tout le cinéma peut faire mémoire. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous pouvez voir des Chaplin des années 1915-1920, comme on peut voir des films d'ethnologues tournés dans les années 50 ou 60.
Et en l'occurrence, avec Jean Rouch, on peut voir par exemple des rituels de possession, on peut voir aussi la façon dont ses amis nigériens regardent l'évolution du continent africain, parce qu'il faut rappeler que tous ensemble, ils ont vécu toute la décolonisation. Est-ce que Rouch était un nostalgique quand il dit à son copain preneur de son, Moussa Hamidou, il faut que l'on capture en quelque sorte sur la pellicule ce qui va disparaître? Est-ce qu'il avait une nostalgie de l'Afrique des années 50?
C'est pas improbable qu'il ait eu une nostalgie. Il en a jamais vraiment parlé, mais c'est pas improbable. Mais par contre, il fait partie de toute cette génération, et notamment liée aux travaux, aux idées qu'il véhiculait à travers l'UNESCO, de créer tout un patrimoine cinématographique pour l'avenir.
L'esprit Jean Rouch, vous l'avez dit, c'est aussi l'esprit d'une joyeuse bande de copains partis faire l'aventure, parce que Jean Rouch regarde et écoute à travers les yeux et les oreilles de ses amis nigériens, comme le raconte si bien Moussa Hamidou.
Rouch, de 1960 à sa mort, on était ensemble. On s'est tellement compris que automatiquement je connais tous ses gestes. Dès qu'il touche à l'objectif, je sais qu'il a serré ou qu'il fait un zoom arrière ou bon... J'arrive toujours à mettre mon micro là où il fallait. Je sais qu'il y a un endroit où je vois mon micro dans l'image. Je dis, mais Jean, écoute, il faut enlever ça au montage. Il me dit, non, c'est pas grave. Tout le monde sait que c'est une caméra et un micro qui a fait le film.
Extrait de votre film Jean Rouch, cinéaste aventurier, que vous aviez envie de nous partager, Laurent Pellet.
Ben oui, parce que en fin de compte, c'est un film qu'on a réalisé donc avec Laurent Védrine, avec l'esprit de recueillir la parole des amis de Jean, hein, donc 15 ans après sa disparition, mais aussi que ce soit vraiment une parole nigérienne. Hein, voilà. Et ce qui nous a permis d'aller rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices, des gens liés au monde politique nigérien d'une certaine époque. Je pense entre autres à Maria Maïma qui avait été ambassadrice du Niger à Paris. Il y a aussi la nouvelle génération des cinéastes. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quelle est leur relation avec les films de Jean ?
Et c'est incroyable parce qu'ils se réclament tous de Jean Rouch. C'est papa cinéma.
Ah, c'est, oui, on peut dire ça d'une certaine manière, c'est papa cinéma, mais c'est véritablement quelqu'un qui influence encore terriblement aujourd'hui et qui est enseigné.
Pour comprendre l'esprit Jean Rouch, revenons, si vous le voulez bien, sur le Grand Prix Jean Rouch du Festival 2024. Il s'agit de La Transformation de Canuto. C'est un film brésilien de 130 minutes, réalisé conjointement par Ariel Quarey-Ortega et Ernesto de Cavalho. Ils sont tous les deux brésiliens. Que raconte ce film, juste avant d'écouter sa bande-annonce ?
Alors, c'est un conte, d'une certaine manière, entre réel et imaginaire. Et c'est l'histoire d'un homme qui a disparu. Donc, c'est tout le mystère de la disparition. Et on va dans le mythe.
Pei, oui, o de potama, de cae. O mano inanye, ué. O mano inanye.
Uma vez, minha mãe mesmo falou que viu. E no pátio da Opan, ele já caminhando de quatro, assim, com o copo tato, assim.
O canuto. Ele.
Tem um animal, que a gente vê um animal. Tem história de pessoas que você pode se transformar.
La bande-annonce hein, du Grand Prix Nanouk Jean Rouch 2024, intitulée « La transformation de Canuto ». Et la langue que l'on entend, c'est la langue Guarani. Pourquoi Laurent Pelé ?
Eh bien, c'est donc Ariel Ortega est Guarani et a depuis très longtemps participé aux ateliers des vidéos dans les villages, qui est un énorme chantier mené par Vincent Carelli depuis plus de 30 ans. Je crois même que c'est 40 ans. Vincent Carelli a appris et a donné accès au cinéma aux Amérindiens.
Donc lui, il est ethnologue.
Alors lui, il est ethnologue, effectivement, mais surtout cinéaste. Voilà. Et donc, Ariel Ortega s'est associé avec Ernesto de Carvalho pour, en fin de compte, aussi lier le cinéma, l'anthropologie, ce qui est le cœur de la thématique, hein, de ce que l'on projette au festival, et en allant plus loin, parce que c'est là où ce film est exceptionnel et fantastique, et rejoint tout à fait l'esprit Jean Rouch, dont vous parliez au tout début, c'est que on est aussi bien dans de la fiction que dans du documentaire, et puis parfois on ne sait plus trop bien où on en est, et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on perd pied.
Alors on perd pied dans un mythe, hein. C'est ce que vous énonciez tout à l'heure, juste avant que l'on écoute cette bande-annonce, un peu mystérieuse, on sent que les éléments sont très présents, les voix chuchotent, donc il y a une magie, hein, une magie américaine latine en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on découvre justement de ce mythe guarani ?
Eh bien, Canuto, avant de disparaître, s'était transformé en jaguar. Hein, qui est l'animal principal dans le mythe guarani. Et qu'est-ce qui fait que ce jaguar, qui est normalement super puissant, devrait résister à tout, disparaît. Et donc c'est à la recherche de cette disparition, c'est à la recherche du processus de cette disparition que va, je dirais, les deux films qui n'en font qu'un. Et aussi en allant, en nous présentant les difficultés à trouver quelqu'un qui va pouvoir incarner Canuto au sein de la communauté guarani, les difficultés aussi des tournages, dans le tournage. Voilà, donc on a une leçon de cinéma tout en ayant une leçon d'enquête anthropologique.
Et d'ethnographie et d'anthropologie pour qu'on comprenne bien la différence entre un film justement que vous sélectionnez et que vous montrez au Festival Jean Rouch et puis un autre film documentaire, plus classique, hein, si j'ose dire. C'est que là, on est quand même dans un travail ethnographique. Le cinéma est un moyen justement d'explorer ce mythe à travers cette communauté Guarani. Et c'est un travail pendant 10 ans, ça, il faut bien l'expliquer aux auditeurs.
Effectivement, tous les films que l'on projette, ce n'est pas des films qui se font en très peu de temps. C'est du temps, c'est de la durée, c'est de la rencontre au long cours.
Comme disait encore une fois. Et ça, ça fait partie du travail du chercheur.
Ah oui, tout à fait. Du chercheur, mais aussi du cinéaste. Il n'y a pas que les chercheurs qui travaillent comme ça. Hein. Il y a aussi des cinéastes qui vont mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ben voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est toujours au long cours.
Et moi, je peux vous dire que j'étais donc à la remise des prix du Festival Jean Rouch en tant que marraine du festival, ce qui est un honneur pour moi. Et j'ai entendu les deux réalisateurs de ce film, La transformation de Canutu, rendre hommage à Jean Rouch. Alors, en quoi, pour vous, Laurent Pelé, leur complicité à tous les deux fait-elle écho à la façon dont Jean Rouch travaillait lui aussi avec ses alter-ego? On a entendu tout à l'heure son preneur de son, mais il y avait également Damouré Zika à qui il demandait de commenter par exemple les images de ses films.
Alors là, vous posez une question qui demande, je dirais, une réponse en deux temps. La première, effectivement, il procède assez bien proche, en tout cas, de ce que faisait Jean Rouch en mêlant fiction documentaire. Mais au-delà, il y a que le deuxième temps, c'est qu'ils ont été initiés au cinéma à travers les films de Jean Rouch.
Ces deux réalisateurs brésiliens.
Voilà, hein, Ernesto et Ariel. Et ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fin de compte, Jean Rouch, au Brésil, il a marqué d'une empreinte assez profonde. Le cinéma documentaire brésilien à partir des années 60, en allant régulièrement, entre autres à Rio, rencontrer Farkas, qui était l'un des producteurs à avoir soutenu le documentaire brésilien de l'époque.
Jean Rouch, une légende au Brésil, bien sûr également au Niger, comme le prouve votre film où le griot Abdoulaye Bouka chante ses louanges. Vous êtes bien sur RFI à l'écoute du griot Abdoulaye Bouka. Il rend hommage à l'esprit de Jean Rouch, source d'inspiration du Festival du film ethnographique, dont l'édition 2024 a sélectionné le dernier documentaire du cinéaste indien, Anand Patwardhan. Son titre, Le monde est une famille. Anand Patwardhan est un documentariste indien primé dans le monde entier. Il est aussi l'un des cinéastes les plus censurés de ces dernières décennies. Il n'en continue pas moins à s'attaquer aux conflits religieux, sous-développement, nationalisme exacerbé, mais aussi aux puissances militaire et nucléaire. Il nous a accordé un entretien exceptionnel que nous partageons avec vous, chers auditeurs, et avec notre invité délégué général du festival, Laurent Pelé. Afin de comprendre dans quel esprit travaille Anand Patwardhan, je lui ai d'abord demandé si le cinéma est pour lui, comme pour Jean Rouch, une fin ou un moyen, ce qui a invité Anand à revenir à ses débuts de cinéaste.
I didn't actually set out to be a filmmaker. I was doing activism in the sense I was part of. I first picked up a camera because I was a student in America in 1970. And my university, as many other universities, were fighting the Vietnam War.
En fait, je n'ai pas décidé de faire du cinéma. J'étais activiste avant tout. Et la première fois que j'ai pris une caméra, c'était alors que j'étais étudiant en Amérique. C'était en 1970. Et sur mon université, on s'opposait à la guerre du Vietnam.
And so
À l'époque, j'avais filmé les manifestations, mais je n'avais pas du tout imaginé me lancer dans une carrière de cinéaste. Et en 1972, je suis rentrée en Inde. J'ai travaillé dans un village pendant plusieurs années, donc je ne faisais pas de film.
Mais en 1974, j'ai joined a movement in India that was protesting against corruption.
Et puis en 1974, j'ai rejoint un mouvement de protestation contre la corruption et d'autres problèmes en Inde.
People expected police violence.
Et les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des violences policières un certain jour. Ils m'ont demandé de venir pour faire des photos.
And so I went from where this was in Bihar in North India, but I went to Delhi.
C'était donc au Bihar dans le nord de l'Inde, mais je suis d'abord allé à Delhi.
And I got some friends to lend me video, not video, there was no video.
Quelques amis ont pu me prêter du matériel, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, on était en Super 8, en film de 8 mm. Et donc j'y suis allée et j'ai filmé ce qui se passait et c'était la première fois que j'enregistrais un mouvement de cette façon sur la pellicule, mais je n'avais pas fait un documentaire à partir de ça.
When we filmed this Super 8, it was basically recording one day's protest where we expected police violence, and I filmed that.
Alors j'avais donc simplement filmé ce jour-là la manifestation et les violences policières, mais c'était extrêmement difficile de montrer les images au public.
And then, before we could start showing the film on a big scale,
mais avant qu'on puisse montrer ce film à plus grande échelle, à un plus large public, l'état d'urgence a été déclaré en Inde. Le mouvement du Bihar a été réprimé, écrasé. Beaucoup de gens se sont retrouvés en prison. Moi-même, je me serais retrouvée en prison si j'étais restée davantage en Inde. J'ai passé 3 mois en Inde pendant l'état d'urgence.
The film was shown underground because everybody was afraid to show it openly.
Donc le film a été montré, mais clandestinement. Les gens avaient trop peur de le montrer de façon ouvertement.
But we cut one.
Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une de ces bandes de 16 mm et on l'a coupée en plusieurs morceaux pour la faire sortir clandestinement du pays à tous ceux qui seraient intéressés.
And luckily I got admission to do my master's in Canada.
Et heureusement, j'ai eu la chance d'être acceptée à ce moment-là en programme de master à Montréal, au Canada, et donc j'ai pu récupérer les différents morceaux du film, le reconstituer et le montrer pour lutter contre l'état d'urgence en Inde.
De Parthwardhan, j'aimerais que l'on parle de votre dernier documentaire, 50 ans de cinéma, et ce film, Le monde est une famille. À quel moment vous avez commencé à filmer vos parents et pourquoi?
I'm not exactly. Well, I was filming on all kinds of equipment. I mean,
alors j'ai vraiment toujours filmé avec toutes sortes d'équipements, d'appareils. Tous mes films ont été faits avec des caméras de deuxième main et même les vieux appareils, les vieilles caméras qui traînaient à la maison, qui ne servaient plus, je les utilisais parfois pour faire des images.
I think it would be in the 90s, early 90s, but there's some footage in this film that is even earlier that my mother had shot.
Donc je pense que moi, j'ai commencé à filmer au début des années 90 à la maison, mais j'utilise aussi des images encore plus anciennes qui ont été réalisées sur VHS par ma mère. Donc on est vraiment dans un film de famille. En fait, j'ai décidé de les filmer parce que je les voyais vieillir, que je n'avais pas envie de les perdre. Et c'était une façon de garder un souvenir d'eux, mais il n'y avait pas de volonté consciente autre que celle de faire un film de famille, comme on le fait tous avec nos enfants ou nos parents.
You taking a picture of me in my jungly hairdo and everything.
Et pourquoi me filmes-tu avec ma coiffure de sauvage?
We're not sending it to a beauty contest.
Ce n'est pas pour envoyer un concours de beauté.
You don't have to send it to a beauty contest, but you don't have to send it to an ugly contest also.
C'est pas une raison, c'est pas pour envoyer un concours de beauté, certes, mais pas non plus à un concours de laideur.
J'adore la mauvaise humeur de votre mère dans cet extrait. Anand Pathwardhan, à quel moment vous avez décidé de faire un documentaire à partir des images tournées sur vos parents?
So In the filming process, it changed when I in the beginning.
Alors, le processus effectivement dans lequel je filmais au départ, like c'était simplement d'aller filmer les réunions de famille, les anniversaires, etc., sans que ce soit forcément réfléchi.
Then, when I started doing interviews, I started interviewing my parents one by one, and
mais ensuite, j'ai commencé à les interviewer un par un. Ce n'était pas forcément organisé, c'était un peu sur le vif, l'occasion, parce qu'ils étaient là et que j'avais la caméra.
Then I started to get oral history from what I was
hearing. C'est là où j'ai commencé à récupérer une histoire orale, et c'est là où c'est devenu intéressant.
It was interesting because my family, that whole generation was part of the freedom struggle against the British.
C'est devenu intéressant parce que toute cette génération-là, et ma famille en particulier, a été très impliquée dans la lutte pour l'indépendance contre le Royaume-Uni.
And especially my family was very active on both sides, my mother's side and my father's side.
Ma famille était extrêmement active, celle de ma mère, celle de mon père en particulier, mais même le père de ma mère, mon grand-père donc, était un homme d'affaires qui a financé la lutte pour l'indépendance.
Je me souviens que ma mère aussi est allée en prison. Elle disait, si mes fils peuvent supporter les difficultés de la prison, pourquoi pas moi ? Je suis le seul à ne jamais être allé en prison.
Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que votre père plaisante sur ce sujet et il dit « Je suis le seul de la famille à ne jamais être allé en prison ».
Yeah, that's true. On my father's side of the family, the whole family went to jail in different times.
Oui, effectivement, dans la famille de mon père, tout le monde à différents moments s'était retrouvé en prison pendant la période du combat pour l'indépendance. En particulier, ses deux aînés, donc mes oncles, Raoul Kaka, Kaka veut dire oncle, qui a passé au total environ 11 ans en prison lui-même, et puis son frère, Achut Kaka, qui lui était plutôt impliqué, était un socialiste clandestin. Il a été emprisonné au début, mais il a vite compris qu'il ferait mieux de faire autrement. Et donc lui, il faisait partie de ceux qui résistaient en essayant autant que possible de ne pas se faire prendre.
Anand, vous diriez que votre oncle Raoult a passé de nombreuses années en prison parce qu'aussi il a suivi en quelque sorte l'enseignement du Mahatma Gandhi.
Yeah, so in a sense, both of my uncles and the entire family was influenced by Gandhi a lot.
Oui, tous les deux, comme d'ailleurs l'ensemble de ma famille, ont été énormément influencés par Gandhi. Mais mon oncle Raoult, lui, il était vraiment, il avait une vision extrêmement ferme. Il était très attaché à la lutte non violente. Pour lui, vraiment, la manière de se battre, c'était enfreindre la loi, se faire arrêter, aller en prison. Ils étaient aussi tous les deux socialistes en même temps que gandhiens. Mon autre oncle, lui, il était également opposé à la violence, mais sa vision était peut-être un peu moins ferme. Ce n'était pas un absolu, cette question de la non-violence. Et ils ont aussi, d'ailleurs, ils s'en sont aussi pris à des biens appartenant à la couronne britannique. Ce qu'ils essayaient, c'était de ne pas faire de mort.
The great march for liberty began.
La grande marche pour la liberté a commencé.
Gandhi started on his 241-mile-long trek. From the ashram to Dandi.
Gandhi a débuté son périple de 241 miles de l'ashram à Dandi,
a village on the sea coast, along with his chosen band of ashram inmates.
Un village au bord de la mer avec un groupe de résidents de son ashram.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous nourrissez votre film de famille, d'archives cinématographiques de l'histoire de l'Inde. Je pense par exemple à la marche du sel en 1930, qui est le moment où vos deux oncles s'engagent dans la lutte pour la liberté.
Yeah. I was luckily there is a lot of not a lot but there is some archival footage of those times.
Oui, c'est une chance parce qu'il y a des archives, pas énormément, mais il reste des images d'archives de cette période-là. Il y en a toute une partie qui ont été sorties du pays et qu'on va trouver, par exemple, à la British Library ou dans d'autres endroits. Mais il y a aussi un certain nombre d'archives qui sont toujours en Inde, ce qui est un peu inquiétant parce qu'on peut se dire que peut-être ça ne durera pas nécessairement avec un gouvernement aujourd'hui qui est composé de gens qui n'ont pas du tout fait partie de ce combat pour l'indépendance, qui ne voient pas la valeur que ça représente, ces archives-là. Ils étaient même plutôt du côté du soutien aux Britanniques.
We are actually lucky because there was one person called Vitthalbhai Jhaveri who made a six-hour film.
La chance qu'on a, c'est que quelqu'un qui s'appelle Vital Bhai-Javeri a réalisé un film de 6 heures sur Gandhi et sur la lutte pour l'indépendance, non pas avec des images qu'il avait filmées lui-même, mais avec des images qu'il a collectées, rassemblées dans les années 50, qui ont été données par des gens, y compris mes propres grands-parents maternels, des anonymes qui avaient filmé ces images, et ça donne accès à cette archive-là. Le film donc, de Vital Bhai-Javeri s'appelle Mahatma, c'était au départ un film de 6 heures, et depuis ils ont fait une version plus courte, parce que tout le monde n'était pas prêt à regarder la version longue.
Anand, vous nourrissez votre film de nombreuses photographies également, hein, avec les albums de famille, et on découvre votre mère, toute jeune, à côté du Mahatma Gandhi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Il y a plusieurs photos de her with Gandhi dans le film, et il y a plus que je n'ai pas utilisé.
Alors en fait, il y a plusieurs photos de ma mère avec Gandhi et il y en a d'autres que je n'ai d'ailleurs pas utilisées. C'est parce que ma mère a étudié à l'université d'art Shantiniket qui a été fondée par Rabindranath Tagore, le poète et prix Nobel.
Gandhi went to Shantiniketan many times and also tried to raise money.
Gandhi se rendait souvent dans cette université. Il finançait d'ailleurs, il trouvait aussi des fonds pour financer cette université. Il avait une relation assez symbiotique avec Tagore. Il y était très régulièrement, même s'il n'était pas d'accord sur tout, puisque Gandhi lui voulait vraiment l'indépendance, alors que Tagore était davantage un internationaliste.
Rabindranath Tagore.
Rabindranath Tagore.
In 1901.
En 1901, sous l'inspiration du poète, est née à Shantiniketan, une institution non communautaire pour filles et garçons, où l'éducation est basée sur une étroite communion avec la nature.
I mean, Gandhi was also internationalist, actually, but they had those minor differences, but they had great. Affinity.
Gandhi aussi était un internationaliste, hein, bien sûr, mais ils avaient, malgré ces petites différences, énormément d'affinités.
Votre film est extrêmement émouvant. Il y a une séquence particulièrement, c'est lorsque vous vous rendez au Pakistan, sur les traces de la maison familiale de votre mère. Vous êtes allé à la recherche de cette maison. Comment avez-vous vécu ce voyage au Pakistan ?
So I actually started going to Pakistan in 1999.
En fait, j'ai commencé à me rendre au Pakistan en 1999, parce qu'en 1998, l'Inde et le Pakistan ont lancé des essais d'armes atomiques. Après, les essais nucléaires ont commencé par la France, justement, qui a réinitié ça après toute une période où le monde ne faisait plus d'essais nucléaires. C'est la France qui a relancé ça. Et j'étais en train de préparer un film, justement, contre les armes atomiques et le nucléaire en général.
So we had formed India-Pakistan citizens friendship.
Et donc on avait initié des alliances citoyennes entre citoyens pakistanais et indiens qui souhaitaient nouer des liens d'amitié. Et l'un de ces moyens, c'était de se rendre visite mutuellement. Et en 1999, après les essais, j'ai pu participer à une de ces visites au Pakistan. Et j'ai aussi filmé, j'ai emmené ma caméra.
Eventually, I went to Pakistan 5 times between 1999 and 2005.
Donc je me suis rendue 5 fois au total au Pakistan entre 1999 et 2005 et les images dont vous parlez qui sont intégrées à mon dernier film sont celles d'une visite en 2003 et ce sont des images qui me restaient et que je n'avais pas pu intégrer à ce film sur le nucléaire qui s'appelle War and Peace.
But there was my in Pakistan I also met old family friends.
D'ailleurs, au Pakistan, j'étais aussi allée à la rencontre de vieux amis de la famille, en fait, des anciens voisins musulmans de ma famille. Mais à l'époque, je n'avais pas pu intégrer ces éléments-là dans le film que je faisais alors.
Dans votre œuvre, vous avez bien sûr évoqué le combat pour l'indépendance de l'Inde. Vous avez proposé d'éclairer la lutte pour l'indépendance, ainsi que son projet politique. Et vous revenez comme... plutôt dans vos autres films, sur la question de la division. Est-ce que la récupération de la mémoire s'inscrit maintenant dans la continuité de vos combats et pourquoi ?
Non, so in at some point, especially while editing this material, which I started doing long after my parents had passed away.
En fait, quand j'ai commencé le montage, quand j'ai commencé à faire ce film longtemps après la mort de mes parents, j'étais très conscient à ce moment-là du fait que le pouvoir actuel, le pouvoir en place en Inde, est en train de réécrire l'histoire, est en train de changer cette histoire-là, et que la jeune génération ne savait même pas ce qui s'était passé à l'époque, mais pouvait en avoir une vision complètement déformée. Donc j'étais très conscient de la nécessité d'essayer de retrouver cette histoire.
Anand Pathwardhan, vous avez toujours été obsédé par le fondamentalisme religieux, RSS, donc le mouvement à l'origine de ce fondamentaliste, dont est issu par ailleurs l'assassin de Gandhi, et le premier ministre indien actuellement au pouvoir, Modi.
So, the RSS and the Hindu Mahasabha, these were two sister organizations, which are both about 100 years old.
Le RSS et l'Hindu Mahasabha, qui sont deux organisations sœurs, ont une histoire très longue. Hein. C'est un siècle, même si l'Hindu Mahasabha a disparu plus ou moins au fil du temps. Le mouvement RSS est toujours là. Et après la mort de Gandhi en 1948, il est devenu très impopulaire. Il y a eu une réaction à la mort de Gandhi qui fait que pendant quelques décennies, il n'y a presque pas eu de discorde entre les musulmans et les Indiens parce que les gens étaient extrêmement choqués.
But if you look at the literature of the RSS and the Hindu Mahasabha of that period,
mais si vous regardez les textes du RSS et de l'Hindu Mahasabha à l'époque, ils étaient fascistes de manière quasi ouverte et assumée. Ils professaient une admiration pour Hitler, ils disaient qu'on devait traiter les musulmans de la même manière qu'Hitler avait traité les juifs. Donc c'était extrêmement explicite, même si évidemment ces textes sont plus difficiles à trouver aujourd'hui puisqu'il y a eu un certain nettoyage.
So if they don't necessarily mean eliminate all the Muslims, but they certainly...
Ils ne disent pas explicitement qu'il faut éliminer tous les musulmans, mais par contre, il est très explicite que les musulmans devraient être des citoyens de deuxième classe.
They believed that the Muslims were not to be trusted because, you know, they have a history of violence. The same story that the West believes now, the demonization of the entire Muslim community.
Il disait qu'il ne fallait pas faire confiance aux musulmans. C'est la même histoire de diabolisation qu'on voit aujourd'hui dans tout l'Occident.
Pourquoi avez-vous choisi d'intituler votre dernier film Vasudeva Kutumbakam, qui est une phrase en sanskrit? Quel est le sens de ce titre?
Vasudeva Kutumbakam literally means the world is family, and it is a parallel. I mean, in all our cultures, in all our religions, we have.
Ça veut littéralement dire le monde est ma famille. Dans toutes les cultures, il y a différents courants, et le courant qui domine très clairement peut-être dans la culture indienne, c'est celui de la caste. Avec cette idée d'une division hiérarchique entre catégories de personnes, les castes les plus inférieures faisant le sale travail, pendant que les castes supérieures peuvent être prêtres ou guerriers. Donc c'est une vision extrêmement divisée de la société.
But Vasudeva Kutumbakam represents the other side of the coin, an equally old tradition.
Et pourtant, dans la culture indienne, on trouve aussi cette phrase qui est en quelque sorte le revers de la médaille et qui est elle aussi d'une tradition extrêmement ancienne et qui dit que le monde est une famille. Donc c'est vraiment l'opposé à la culture de la caste.
So I was again trying to recover what is positive in our culture and reject the negative.
Donc encore une fois, c'était une façon d'essayer de me réapproprier ce qu'il y a de positif dans notre culture et de rejeter ce qui est négatif.
Ce que dit l'Inde officiellement aujourd'hui, c'est que le monde est une famille hindoue. Alors que lorsque vous faites référence à ce texte ancestral, vous parlez d'une famille multiculturelle.
Yeah, the word Hinduism is also is quite recent. It's not there. If you look at our ancient texts, you don't find the word Hindu.
Oui, même le mot hindouisme, d'ailleurs, est un terme relativement récent. C'est un terme qui n'apparaît pas dans les textes anciens. On ne trouve pas ce mot dans le Ramayana ni dans d'autres textes de la littérature ancienne. C'est quelque chose de plus tardif. Et ce qu'on entend aujourd'hui par hindouisme est une création tout à fait moderne. Très souvent, ce qu'on fait passer pour religion est en réalité une mixture concoctée par ceux qui s'intéressent au pouvoir.
Vous voulez ajouter quelque chose, Anand?
Well, the only thing that I'd like to add is that the regime that's in power right now in India is not accidentally there. And it's not necessarily there because the Indian people want them there.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que le régime actuellement au pouvoir ne l'est pas par hasard. Et il ne l'est pas parce que les Indiens veulent qu'il soit au pouvoir. Il est là, ce régime, parce qu'il est extrêmement pratique et accueillant pour les puissances occidentales, qui souhaitent un accès au marché, à l'économie indienne. Et ce régime-là les aide, les autorise à violer l'environnement, à miner la terre et à pratiquer toutes sortes d'industries extractivistes. Et ça fait, la France fait partie de ces grandes puissances occidentales. Il y a un gros partenariat en particulier autour des armes. Il y a eu un énorme scandale récemment à propos des avions Rafale qui ont été obtenus par un marché tout à fait corrompu au bénéfice de la France et du régime indien en place. Et donc vraiment la complicité occidentale est extrêmement importante à comprendre dans le maintien de ce régime en place. Les puissances occidentales se moquent des violations des droits humains quand elles sont commises par des gouvernements
ennemis. Un autre exemple est Israël. Israël is one of the big arms partners of India.
Un autre exemple, c'est celui d'Israël, qui a là aussi un partenariat très important sur les armes avec l'Inde.
Which is ironic because the ideology of this regime, as I told you, was.
L'Israël est un grand ami du régime indien, ce qui est relativement ironique, hein, parce que, comme je vous l'expliquais, d'un point de vue idéologique, ce régime est tenu par des gens qui sont des admirateurs d'Hitler. Donc le partenariat entre Israël et des admirateurs d'Hitler, personne ne semble voir l'ironie là-dedans.
Because the whole world today is controlled by arms dealers.
Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est contrôlé par les marchands d'armes, et ce n'est pas un pays plus que l'autre. Tous ceux qui vendent des armes ont intérêt à ce que la guerre continue.
Adharani, dharunai, adharani, baharu bhitaru, pinda brahmanda kachunai.
La bande originale du film Le monde et ma famille de Anand Pardwardhan, un grand moment de ce Festival international du film Jean Rouge 2024. Beaucoup d'émotions dans la salle. Quelle a été votre émotion, Laurent Pelé ?
D'être plongé dans la grande histoire de l'Inde à travers la famille de Anand Pardwardhan et en même temps, je dirais, un amour de ses parents à l'image. Et il y a une espèce de contraste entre ce qu'a été, en 1947, l'indépendance de l'Inde, et cet amour où Anand enserre ses parents, les suit au plus près, de dos, dans les rues de Delhi, comme s'il les couvait, comme s'il en avait, il voulait les protéger.
En tant que directeur délégué du festival, qu'est-ce que ça représente pour vous et votre équipe de montrer un film à Paris, en France, qui est censuré à Delhi, en Inde ?
Alors, pour nous, ça fait partie de notre ADN, parce qu'il vient de loin, notre ADN, c'est que Jean Rouch, quelque part, le faisait aussi en tant que président de la Cinémathèque française et aussi en tant que secrétaire général du comité du film ethnographique. Par exemple, dans les années 80, ça lui est arrivé, mais très discrètement. C'est ça aussi qui était assez étonnant, il en parlait très très peu, d'aider des cinéastes en projetant leurs films.
Par exemple,
Moi, je me souviens d'une histoire autour d'un cinéaste bulgare qui l'a aidé à rester en France en lui trouvant des contrats, à pouvoir avoir trois bobines pour faire un film ou en tout cas avoir le temps d'écrire son film. On peut dire son nom parce qu'il est toujours à Paris et puis c'est un très bon ami, c'est Yorgi Balabanov. Et donc, c'est des petites choses que pouvait faire Rouch. Et nous, je dois dire qu'au festival, si on peut permettre à tous ces films d'être projetés, qu'il y ait une rencontre aussi entre cinéastes et public, c'est un beau but.
Qu'est-ce que vous faites comme lien entre la démarche de Anand Pathwardhan, qui documente l'histoire de l'indépendance de l'Inde, avec l'intérêt de Jean Rouch pour la décolonisation en Afrique ?
Alors, le lien avec une colonie anglaise, qui était la Gold Coast, c'est que Jean Rouche a suivi pendant 2 ans tout le processus d'indépendance du Ghana, en étant d'ailleurs assez proche au travers des activités de sa femme, Jane Rouche, qui était journaliste. Donc, ils étaient assez proches de Nkrumah. Et Jean a fait un petit film qui s'appelle Baby Ghana, qui est le premier jour de la naissance du Ghana, à travers le regard d'immigrants nigériens qui étaient là et qui ont aussi participé. Donc, quelque part, quand les migrants nigériens vont rentrer à Niamey ou le long du fleuve, eux-mêmes vont propager cette idée d'indépendance. Voilà, malheureusement, le film n'est pas très connu, mais il faut vraiment qu'on le reprojette. Tiens.
Baby Ghana, ça claque, en tout cas. C'est aussi ça, l'esprit du festival Jean Rouche. On s'interrogeait au début de cette émission sur la façon dont Jean Rouche regardait les autres. C'est en regardant les autres à travers le regard de ceux qu'il filme, hein, qu'il atteint quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs.
Oui, et allons plus loin, c'est qu'il ne faisait pas que regarder les autres. Il partageait le regard des autres aussi. Et il les associait parfois à son propre regard. Prenons un film comme Les Maîtres Fous, qui est un film très très particulier. Hein, et bien, une partie du commentaire de Jean et du choix de certaines images, parce que Jean avait été invité pour faire ce film par les prêtres à Ouka. Et donc, il y avait une véritable complicité.
On est dans quel pays ?
Encore une fois, au Ghana, en 1954, donc juste avant l'indépendance.
Merci beaucoup, Laurent Pelé. J'invite nos auditeurs à se rendre sur le site internet du Festival international du film Jean Rouche pour découvrir tous les films programmés et primés. Et ce qui est très très bien, c'est qu'il y a des flashcodes et ça nous permet de voir toutes les bandes-annonces de tous les films.
Adam, nous allons te raconter une histoire.
Quelle histoire ?
C'est notre voyage de Kourmi, Ghana, que l'on appelait dans le temps Gold Coast, la côte de l'or. Là, où les gens vont chercher de l'argent, des habits et toute la richesse.
Arrivé au Ghana, je suis devenu un vrai jaguar. Avec ma cigarette, j'ai commandé tous les chantiers. Jaguar, fridge food, jaguar.
Il me reste à remercier toute l'équipe du Festival Jean Rouche, ainsi que Marguerite Capelle pour sa traduction, et bien sûr Sophie Janin pour la réalisation de cette émission signée Valérie Nivelon. Retrouvez-nous sur l'application RFI Pure Radio, rubrique Histoire, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Je me promène dans les rues, je suis devenu jaguar.
Qu'est-ce que veut dire jaguar ?
Eh bien, jaguar, c'est le jeune homme galant qui a la tête bien peignée, qui fume, qui marche, tout le monde le regarde, il regarde tout le monde, il voit toutes les belles filles, il fume sa cigarette tranquillement. Voilà ce que veut dire jaguar. Un homme bien, quoi.
Un homme qui est galant, le jasmin.
Voilà.
C'est le jasmin qui est jaguar ?
Oui, c'est le jasmin qui est jaguar. En français, on dit Zazuman.
Que vous êtes Zazuman en français.
Oui, en anglais, on dit Jaguar.
Jaguar.
Bientôt, Jaguar. Jaguar. Oh, mon cher, la vie là-bas, Jaguar, complètement.